On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. J'avais à cœur de pouvoir partager avec vous donc le thème qui nous est cher de la communion fraternelle. On aurait pu parler aussi de l'amour fraternel, c'est la même chose. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, c'est que nous puissions continuer à persévérer dans la communion fraternelle. Vous savez, quand on parle de la communion fraternelle, ce n'est pas seulement un rassemblement d'hommes et de femmes, comme ce matin. Ce n'est pas seulement une réunion plénière. La communion fraternelle, c'est l'union spirituelle de ceux et de celles qui ont cru au Seigneur Jésus. Et il y a des passages étonnants dans la Bible quand on lit par exemple un premier verset que je vous propose, Actes chapitre 4, verset 32, juste la première partie de ce verset 32. On est comme étonné de ce que pouvaient vivre ces chrétiens que nous allons retrouver dans le ciel. La Bible nous dit, Actes chapitre 4 et le verset 32, je vous laisse le temps de pouvoir trouver ce passage avec moi, bien qu'il soit déjà projeté derrière mon dos sur l'écran. Actes chapitre 4 et le verset 32, il nous est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était quoi ? Qu'un cœur et qu'une âme. » Et d'ailleurs, nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alors il faut qu'on soit clair sur ce passage qu'on vient de lire et que nous comprenons bien que ce qui s'est passé parmi les chrétiens de cette église primitive, puisque là, à ce moment précis, l'église était naissante, ce qui se passait entre ces chrétiens était ni plus ni moins l'œuvre et le fruit du Saint-Esprit. Un miracle, littéralement. Quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Il fallait vraiment l'action puissante du Saint-Esprit pour que des milliers d'hommes et de femmes, parce que après le discours de l'apôtre Pierre, la Bible nous dit que des milliers de pèlerins qui étaient venus sur Jérusalem, à l'instant même, se sont convertis au Seigneur. Et il y a eu un bon problème, parce qu'il y a des mauvais problèmes, mais il y a des bons problèmes. Et il fallait très rapidement constituer l'Église. Et d'ailleurs, Jésus l'avait dit à ses disciples, « Je bâtirai mon Église. » L'Église n'appartient pas à un individu, à une personne, à un mouvement. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et nous sommes la propriété directe du Seigneur Jésus-Christ. Il connaît chacun de ses enfants. Il pourrait citer chacun des noms de ceux et de celles qui lui appartiennent. C'est pourquoi ce matin, ce serait un non-sens de dire, « Mais le Seigneur, il m'a abandonné. » Impossible. Si vous êtes l'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas vous abandonner. Moi, j'ai trois filles, je n'oublie aucune d'entre elles. Je les connais comme si je les avais fait. Allez, un petit coup, un petit peu d'humour. La communion fraternelle telle que Dieu la désire parmi nous ne peut être que le fruit du Saint-Esprit, ça c'est indéniable. Mais pour que cette communion fraternelle perdure dans le temps, parce qu'il est question de pouvoir nous maintenir, de pouvoir persévérer dans cette communion fraternelle, c'est à nous. C'est notre responsabilité, à chacun d'entre nous, de pouvoir garder et cultiver, c'est bien le mot, garder et cultiver cette communion fraternelle. Parce qu'on se rend tous compte, les uns et les autres, que combien cette communion fraternelle peut se fragiliser, peut à un moment donné péricliter, peut même être en péril. On le constate même si on tourne quelques pages, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, ne le cherchez pas. Mais quand il y a eu un premier conflit, on sort de ce contexte, la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme, et puis un conflit arrive entre les chrétiens, de souche grecque, c'est-à-dire donc les hellénistes, et puis d'un autre côté, les chrétiens de pure souche juive. Et il y avait déjà là un conflit qu'il a fallu vite régler, puisque les apôtres ont mis en place, ont établi des diacres pour pouvoir gérer la distribution des biens, parce qu'il y avait a priori des inégalités à ce niveau. Combien la communion fraternelle peut être si facilement fragilisée? Et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui peut-être rappeler quelques recommandations que Dieu nous laisse concernant la communion fraternelle. Comment entretenir cette communion fraternelle? Alors j'ai relevé pour vous quelques 2-3 points que nous allons partager ensemble. La première recommandation intéressante pour nous ce matin et qui va nous aider à entretenir cette communion fraternelle, elle se trouve dans le livre, dans l'épître aux Romains au chapitre 15 et le verset 7. Alors je vous laisse le temps de chercher donc ce passage. Romains chapitre 15 et le verset 7, c'est l'apôtre Paul qui adresse aux chrétiens de Rome quelques recommandations et va dire la chose suivante. Romains chapitre 15 et le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Outre l'unité et puis aussi, j'ai envie de dire, l'amour, qui sont à mon sens les deux éléments principaux de la communion fraternelle à laquelle Dieu nous appelle, reconnaissons que l'accueil est aussi l'un des éléments incontournables, indispensables, qui va nous aider à entretenir une communion fraternelle entre nous. L'accueil, s'accueillir les uns les autres. L'accueil doit être la manifestation de la présence de l'amour de Dieu au-dedans de nous. Si nous avons l'amour de Dieu au-dedans de nous, nous saurons comment accueillir le frère, la sœur. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est quoi l'accueil? L'accueil, c'est très simple, c'est à notre portée. Toujours ce que Dieu nous demande est à notre portée. Quand il nous demande d'aimer notre prochain, comme notre frère François l'a rappelé tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé cette introduction à la Sainte-Seine. Deux commandements. Pour résumer les 10 commandements, et pour résumer peut-être même l'Ancien Testament, pour résumer les prophètes, Dieu nous a facilité la tâche. Il nous a dit, premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Mais le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour, moi, me semble-t-il, se manifeste également par l'accueil. L'accueil se traduit par un regard bienveillant. Juste en arrivant, avoir ce regard qui est posé, un regard bienveillant. Pas les sourcils froncés, déjà prêt à sauter sur les uns ou sur les autres. Un sourire avenant. L'accueil, c'est quoi? C'est une poignée de main sincère. Ou même un saint baiser, comme nous dit la parole de Dieu. L'accueil, c'est quoi? L'accueil ne regarde pas aux apparences, ni même à la couleur de peau. L'accueil ne soupçonne point le mal. Il ne s'arrête pas non plus aux différences d'opinion. Et on l'a lu au verset 7. Il est question pour nous de pouvoir accueillir comme Christ nous a accueillis. Et il l'a fait pour la gloire de Dieu. Et nous savons de quelle manière il nous a accueillis. Le premier jour où l'évangile est entré dans mon cœur, je reconnais et je me rappelle de ce regard, le regard de Jésus-Christ sur ma vie, me disant qu'il m'aimait. C'était un regard chargé d'amour. 32 ans déjà. Et depuis, cet accueil m'a accompagné et je ne suis pas le seul. Je pense que l'accueil du Seigneur nous accompagne les uns et les autres. Et même cet accueil va perdurer jusque dans l'éternité, puisque Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez également. » Dès le début, Jésus nous a fait bon accueil. De même, notre accueil doit être sans faille. Notre accueil doit être vrai et sincère à l'égard des frères dans la foi. J'avais parlé il y a déjà deux dimanches de cela, de cet exemple de celui de Caïn, quand il a répondu à Dieu, « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Je vous pose maintenant aujourd'hui cette question. Est-ce que Caïn a fait bon accueil à son frère, Abel ? Non, puisqu'il l'a tué. Il l'a tué. Et en réfléchissant à cela, alors que je préparais hier ce message, en y réfléchissant bien, Caïn n'avait pas de problème avec Abel. Ni Abel n'avait rien fait de mal à Caïn. Oui ou non? Tous les deux sont venus et à un moment donné ont offert leur offrande au Seigneur. Donc il n'y avait pas de problème d'une manière horizontale entre ces deux frères, c'est le cas de le dire. Mais en y réfléchissant bien, finalement le problème ne se trouvait pas dans la vie ou même dans les actions d'Abel. Le problème se trouvait littéralement dans le cœur de Caïn. Un problème que Dieu l'invitait à pouvoir régler avec sa grâce, avec son aide. Preuve, et vous pourrez relire ce passage dans le livre de la Genèse. Dieu va dire à Caïn, « Oh, pourquoi ton visage est-il irrité ?» Sache une chose, parce que Dieu voit tout. Le mal se couche à ta porte, mais toi domine sur lui, parce que nous avons la possibilité de pouvoir dominer le mal. Et il va lui dire, et si tu fais ainsi, tu relèveras ton visage. Donc le problème se trouvait dans le cœur de Caïn et c'était de sa responsabilité de pouvoir régler ce problème avec l'aide et l'assistance de Dieu. Mais Caïn n'a pas voulu écouter Dieu. Il n'a pas voulu écouter Dieu et alors il s'en est pris à son frère. Et c'est là qu'il y a peut-être une leçon pour nous ce matin. Certains conflits, écoutez bien, certains conflits que nous pouvons avoir avec notre prochain d'une manière horizontale cachent bien souvent des problèmes spirituels qui résident finalement dans notre propre cœur et que nous sommes appelés à pouvoir régler avec l'aide et l'assistance de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre ? C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors il faut bien qu'on s'en prenne à quelqu'un. Alors si c'est pas le conjoint, alors c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est le patron. Alors d'une manière horizontale, on cherche la cause du problème. Mais la cause du problème, quelquefois, elle est au-dedans de nous. Et si on sait s'humilier et obéir à ce que Dieu nous demande, alors les choses se débloquent. Toujours est-il, si nous ne sommes pas en règle avec Dieu, si nous ne sommes pas en harmonie avec ce que Dieu nous demande, nous ne pourrons pas faire bon accueil. C'est impossible. Nous ne pourrons pas faire bon accueil. Et il ne faut pas, vous le comprenez bien, qu'il en soit ainsi. Dans l'histoire, dans une autre histoire, celle du fils prodigue, c'est pareil, le fils aîné, dont on ne connaît pas le nom. Quand je regarde cette histoire que Jésus raconte, on voit ce fils cadet qui finalement n'a pas retenu son petit frère, celui qu'on appelle le fils prodigue. Il ne l'a pas retenu quand ce dernier a décidé de pouvoir partir, de quitter la maison paternelle. En tout cas, la Bible ne le précise pas. Mais ce que je constate avec vous, parce que c'est Jésus qui le raconte, quand il est revenu ce petit frère, quand les bras du père, là, tout à nouveau accueilli, lui par contre, le grand frère, celui qui devait donner l'exemple, il ne lui a pas fait bon accueil. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Nous devons apprendre les uns et les autres mieux, de mieux en mieux, à nous accueillir les uns les autres, car nous sommes tous membres de la grande famille de Dieu. Est-ce que nous réalisons ce matin que nous formons un seul et même corps ? Pas un corps physique, on l'a compris, c'est le corps spirituel de Jésus-Christ. Et Jésus d'ailleurs lui-même est la tête. Et on a besoin de pouvoir s'accueillir les uns les autres. Je pense que c'est une des premières recommandations qui va nous aider à pouvoir nous entretenir cette communion fraternelle. Mon frère, ma sœur, de grâce, fais accueil, pas à une partie seulement, mais à tous tes frères et tes sœurs. Car faire acception des personnes, c'est aussi également un péché aux yeux de Dieu, nous le savons. Une deuxième recommandation intéressante, quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à cet autre passage dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. Alors on va lire ensemble, je vous laisse aussi le temps de chercher cet autre passage. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3, c'est tout à nouveau l'apôtre Paul qui nous enseigne, qui nous instruit. Cette fois-ci, il écrit un courrier aux chrétiens qui se trouvent à l'église d'Éphèse et il dit la chose suivante. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. Est-ce que ma sœur, tu as trouvé ? Super. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Juste une petite remarque, il écrit ce courrier alors que lui-même est dans les chaînes. Vous savez, quelle que soit la situation qu'on peut vivre, si Jésus est dans notre cœur, rien ni personne ne peut nous ébranler. Et dans sa prison, alors qu'il était incertain de son devenir, il... rempli d'amour, il avait à cœur de pouvoir exhorter ses frères et ses sœurs, on y revient. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, mais on a compris, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Se supporter les uns les autres. C'est là où j'aurais aimé entendre un amen. Se supporter les uns les autres. Pour se supporter les uns les autres. Vous l'avez compris, il faut fournir quelque part un effort. Quand on regarde le dictionnaire, par définition, le verbe supporter consiste à soutenir, à porter et même à endurer quelque chose. Supporter, c'est accepter de recevoir soit le poids ou bien la charge de quelque chose ou de quelqu'un sur soi-même. Et tout cela, vous l'avez compris, implique un effort bien de notre part. Et comme nous venons de le lire, c'est par l'amour de Dieu que l'on peut pleinement supporter comme Dieu nous le demande. Vous supportant les uns les autres avec amour. C'est par l'amour divin que nous arriverons pleinement à nous supporter les uns les autres. C'est tellement important. Et là aussi, bien sûr, notre exemple suprême, c'est qui ? C'est le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui était insupportable au regard de Dieu. C'était l'immondice du péché de l'humanité. Il faut qu'on réalise ensemble que ce que Dieu a en horreur, c'est la vue du péché. Et à un moment donné, il a détruit même le monde par ce fameux déluge. Mais ce n'est pas ce qui a réglé le péché qui rongeait comme la gangrène dans le cœur de sa plus grande et sa plus belle créature. Notre péché insupportait le regard du Dieu trois fois saint. On l'a chanté tout à l'heure, notre Dieu qu'on sert est un Dieu saint. Et au lieu de nous détruire, il a envoyé son fils Jésus. Jésus, c'est pour cela qu'il est venu. C'est l'évangile que nous partageons, que j'annonce avec une grande joie. Dieu, dans son amour, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé. C'était la seule solution. Il fallait qu'elle vienne même du cœur de Dieu. Et Dieu est venu littéralement, par l'intermédiaire de son Fils, venir supporter le châtiment qui nous était réservé les uns les autres. Le péché était insupportable, mais Jésus est venu porter la charge de notre péché. Quand on lit Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit clairement que Jésus a porté nos péchés. Alléluia sur lui. Et le châtiment qui nous était réservé, il l'a endossé sur, alléluia, sa personne. Et qu'est-ce que Jésus n'a pas enduré, n'a pas supporté? Lui, le prince de la vie, on s'est raillé de lui. Rendez-vous compte? Celui qui a créé le ciel et la terre, on lui a craché dessus. On lui a giflé. On l'a flagellé. On l'a fait souffrir. Mais tout ça, Jésus l'a supporté parce qu'il nous aimait. Parce qu'il nous aimait, ne cherchez pas. Et il ne faut pas qu'on se flatte, frères et sœurs. Dieu continue à nous supporter les uns les autres. Moi qui vous parle, Dieu me supporte et je bénis le Seigneur parce qu'il me supporte. S'il y a bien quelque chose que Jésus continue à supporter chez chacun d'entre nous, c'est bien notre faiblesse de foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et même quelquefois notre incrédulité, et on voit même d'ailleurs à un moment donné dans une circonstance, Jésus qui va faire la remarque suivante dans Marc chapitre 9 et le verset 19, ne le cherchez pas, mais Jésus sera obligé de dire, alors qu'il est là à marcher parmi les hommes, il va dire race incrédule, autrement dit génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il va dire, amenez-le-moi, il était question d'un enfant, fils, d'un homme qui était plus qu'affolé, puisque son fils était possédé d'un démon qui le meurtrissait, qui lui faisait beaucoup de mal. Et en une minute, le Seigneur, en quelques secondes, le Seigneur, il a réglé cette affaire. Que Dieu nous aide à voir notre foi augmentée. Il y en a qui ont faim et soif du Seigneur ce matin, mais il y en a qui s'habituent à la parole de Dieu. Ils écoutent chaque jour, jour après jour, la parole de Dieu, mais malheureusement, leur cœur est piétiné. Et finalement, la parole de Dieu ne sème pas. Parce que quand la parole de Dieu est prononcée, leur esprit est distrait. Ils sont déjà à préparer le repas. Ils sont déjà, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Quelle plage que je vais choisir? Ah mince, j'ai oublié mon maillot. Frères et sœurs, ce qui se passe ici est beaucoup plus important qu'on ne le pense. C'est une question d'éternité. Et finalement, la manière dont on appréhende la parole de Dieu, c'est aussi la manière que le Seigneur va réagir avec nous. Si ton cœur est ouvert, la foi va se manifester. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et alors le Seigneur pourra intervenir. Mais si ton cœur est fermé, tu ne pourras pas avoir la foi pour saisir le miraculeux, pour pouvoir t'approcher de Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est capable et en mesure de pouvoir intervenir dans ta situation. Ce qui se passe est tellement important. Et que Dieu nous garde ce matin de nous considérer, nous comparer à cette race incrédule que notre foi puisse augmenter jour après jour. Mais toujours est-il le Seigneur, il est fidèle à lui-même, il continue à nous supporter. Je vous l'ai dit, j'ai 3 filles et je les supporte. Hein. Ah, ils sont quelquefois insupportables. Hein. Le Seigneur, il nous supporte aussi. Plus qu'un père, il prend soin de nous, il nous supporte. Il nous supporte parce qu'il nous aime. Et de même, nous devons supporter l'insupportable grâce à l'amour de Dieu. Il y a peut-être des choses qui sont insupportables autour de toi, chez ton frère, chez ta sœur. Mais toi que Dieu supporte jusqu'à maintenant, Dieu t'invite à pouvoir supporter, eh bien, peut-être les actions des uns et des autres. Nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 3, qu'il y a comme un enjeu. Si tu peux remettre, s'il te plaît, Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3, le texte précédent. Et nous voyons, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Finalement, l'effort que je vais porter pour supporter mes frères et mes sœurs, grâce et avec l'aide de l'amour de Dieu, va aussi permettre à pouvoir maintenir l'unité et la paix parmi les chrétiens. Voilà ce que dit ce passage. Il y a comme un enjeu spirituel. Quand je supporte mon frère et ma sœur, je veille aussi à maintenir également l'unité et la paix qui est un grand prix aux yeux de Dieu. C'est tellement, tellement important, frères et sœurs. C'est certain, lorsque nous ne sommes plus disposés à supporter le prochain, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tombe dans les plaintes, on tombe dans les murmures, et ça, dans cette affaire-là, croyez-moi, Dieu, est, le diable, excusez-moi, est prêt à nous aider. Hein, à trouver des arguments, lui, il est prêt à pouvoir nous aider. On tombe dans les plaintes, dans les murmures, et on finit par dire des bêtises ou par faire des bêtises. Allez voir avec l'exemple de Moïse. Moïse, l'homme le plus patient au monde. Mais à un moment donné, il faut croire, non seulement il a manqué de patience, mais ce peuple qui était rebelle à Dieu lui devenait insupportable. Et alors que Dieu lui a demandé à un moment donné de pouvoir frapper le rocher, plutôt parler au rocher, lui, exaspéré, va frapper et à 2 reprises, vient ce rocher. Et il va dire en plus, il va même traiter ce qui était vrai quelque part. Le peuple, d'une manière particulière, Nombre chapitre 20, verset 10. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Allez, en français courant, on dit, écoutez, bande de rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et voyez, bam, bam. Et Dieu dans sa fidélité, parce que nous, lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il a fait quand même couler l'eau du rocher. Mais on connaît la suite. Hein. Dieu discrètement a appelé Moïse, a dit « Qu'est-ce que tu as fait là tout à l'heure là ?» À cause de ça, tu ne rentreras pas dans le pays de Canaan. Il y a bien sûr des conséquences. Il y a bien sûr des conséquences. Si nous avons au contraire quelque chose à reprocher à l'autre, la Bible nous exhorte à toujours être prêt à pardonner. Ce mot, certains ne l'aiment pas. Hein. Pardonner, je le dis. Ça s'appelle pardonner. On est chrétien, on aime ce mot-là. Pardonner. Regardez ce passage dans la Bible, Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est important de pouvoir se pardonner les uns les autres, de pouvoir remettre la dette à l'autre, de pouvoir dire ben, « c'est vrai, il y a eu ça, 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 frère, je te le dis, ma sœur, je te le dis, mais à cause de l'amour que Christ a à mon égard, à cause du pardon qu'il continue à me manifester, je choisis de te pardonner ce matin, je choisis de te faire grâce. Que Dieu soit béni, se supporter les uns les autres, c'est aussi exercer le pardon à l'égard du prochain, on le sait tous. » Et croyez-moi, en matière de pardon, Jésus continue également à nous supporter. Autre recommandation, on en arrive à la troisième et dernière. S'il nous faut nous accueillir les uns les autres, s'il nous faut se supporter les uns les autres, je crois aussi que Dieu nous invite à pouvoir nous exhorter, nous édifier réciproquement, nous édifier mutuellement, nous exhorter les uns les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et notre communion fraternelle, notre amour fraternel va pleinement s'épanouir si et seulement si, au sein de nos rassemblements, au sein de notre assemblée, nous sachons pleinement nous exhorter les uns les autres, nous édifier les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous rassembler pour être pire. Mais si nous nous rassemblons, c'est pour être meilleur. Et je dis là, parce qu'on est dans un rassemblement plénière, mais si on est à deux ou trois, on est capable de se rassembler pour être meilleur. Et pour qu'on soit meilleur, pour que ce soit une bénédiction pour l'un l'autre, nous qui sommes chrétiens, il est bon que dans nos rassemblements, aussi minimes soient-ils, nous puissions aussi savoir nous exhorter, nous édifier les uns les autres. Vous savez, le mot « exhorter », pour ne prendre que celui-là, c'est la traduction du mot grec « parakaleo ». Et « parakaleo » se traduit pas seulement par « exhorter », ce mot est beaucoup plus riche que cela. Et regardez les verbes qui pourraient être traduits par le mot grec « parakaleo ». Ce sont par exemple les verbes « instruire »,« enseigner »,« réconforter »,« parler avec bonté », »,« consoler ». Et ça nous dit quelque chose. Du mot grec « parakaleo » est venu le mot grec « parakletos ». Et Jésus a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Lui-même était le consolateur par excellence. Et il a envoyé un autre consolateur par l'intermédiaire du parakletos, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Fortifié par consolation. Parakaleo veut dire aussi s'efforcer d'apaiser, mais par supplication. Exhorter, c'est presque prier, supplier. C'est fort tout cela. Parakaleo veut dire aussi encourager. Exhorter, c'est quoi? C'est encourager. Pas décourager. Encourager. Lorsque nous nous exhortons réciproquement, voici donc les verbes d'action que nous devons atteindre. Voici les différents buts à atteindre lorsque j'exhorte, lorsque j'édifie mon frère, ma sœur. Et tout cela, oui, pour qu'en retour, mon frère, ma sœur soit construit, soit édifié, soit affermi, fortifié dans sa foi. Dans son épître aux Corinthiens, Paul a rappelé que tout ce qui se fait au sein de nos assemblées doit servir à l'édification des croyants. Juste deux versets, je vous donne, vous prenez des notes. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, il dit par exemple, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, comme ce matin, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse, pourquoi? Pour la propre gloriole, pour être vu, pour l'édification de l'ensemble du corps de Christ. » Comme un beau bouquet, ce témoignage tout à l'heure qui a été donné, les paroles de connaissance, béni soit Dieu parce que Dieu parle parmi nous. Et c'est une richesse. C'est cela qui va édifier, c'est cela qui va nous fortifier dans la communion fraternelle. Un autre passage, Éphésiens, chapitre 4, verset 29, il nous est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi ? À l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que lorsque ma bouche s'ouvre, une grâce puisse sortir de ma bouche, pour bénir le frère, la sœur, je ne sais pas quoi dire, bénis-le. Prie pour lui, par exemple. Il y a des personnes comme ça, et quand ils viennent à vous, on le sait d'avance. C'est pour critiquer, c'est pour toujours dire des choses négatives, c'est pour... Remarquez, c'est de l'abondance du cœur quand la bouche parle. Mais il y en a d'autres. Je pense à Barnabas, c'est le temps qui nous manquerait pour parler de son cas. D'ailleurs, Barnabas veut dire « fils de la consolation, fils d'exhortation ». Lui, partout où il passe, c'est pour faire du bien. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour laisser le Saint-Esprit parler par sa bouche. Et c'est ça qui est important. C'est ça que nous devons rechercher pour notre compte. Exhorter, je le répète, consiste à consoler, à encourager, à fortifier l'autre. Exhorter a pour vocation d'apaiser l'autre. Exhorter sert aussi à avertir l'autre avec supplication. Il faut aussi avertir. Et on le fait avec supplication dans le but de gagner le frère ou la sœur. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, ou bien de temps en temps, sauf pendant les vacances. exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin, parce qu'il y a un but à l'exhortation, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Un jour, Christ va prendre son Église. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'Église, c'est le corps spirituel de Christ. Et il s'agit pour nous de rester hantés, attachés, ancrés à ce corps. Parce que si nous sommes un membre solitaire, si nous sommes isolés du corps, eh bien, quand Jésus-Christ viendra prendre son propre corps, c'est-à-dire son Église, vous ne partirez pas. C'est impossible. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction des péchés. Et tu sais, mon frère, ma sœur, alléluia, qu'un tel ou une telle est en détresse, spirituellement parlant, même un coup de fil, inspiré par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi. Hier, quelqu'un en larmes m'appelait, elle m'appelait de notre pays. J'ai dit, écoute, parce qu'à un moment donné, il faut être honnête, il y a certaines situations où nous-mêmes, on n'a pas la réponse. Hein. Alors on a ce relais. On est capable, par le biais de la prière, de nous recommander à Dieu. J'ai dit, je vais prier avec toi. Et son cœur a été apaisé. Que Dieu soit béni. Que nous soyons des artisans de paix. Et pour cela, on a besoin de pouvoir manifester dans, au sein même de nos communions fraternelles, eh bien, l'exhortation et l'édification. Je veux terminer, je ne veux pas être long ce matin. La communion fraternelle, c'est un élément essentiel pour le bien-être et l'accroissement, alléluia, de l'Église de Jésus-Christ. Quand une Église vit réellement la communion fraternelle, comme Jésus l'entend, je précise, alors Dieu ne peut que bénir cette Église et la faire croître, j'ai envie de dire, en qualité, mais aussi en quantité. Et je nous pose la question ce matin, est-ce que nous voulons eh bien pleinement voir notre Église croître en qualité, en quantité? Alors il nous faut persévérer dans la communion fraternelle. Même nos agapes ne sont pas eh bien des options, frères et sœurs. On parle des agapes dans la Bible. Jésus aimait avoir ses agapes. Souvent, c'est par le biais d'agapes, eh bien, qu'il se retrouvait avec les gens de mauvaise vie, avec les publicains. D'ailleurs, on l'a même traité comme étant les amis des gens de mauvaise vie. Il boit, c'est un buveur. Par le biais de l'agape, les cœurs se dilatent, les masques tombent. Et autour d'un bon repas, par exemple, eh bien, on peut vivre encore également la communion fraternelle et aussi s'exhorter, se parler mutuellement. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Persévérer dans la communion fraternelle. Parce que Jésus a dit, de toute façon, que l'iniquité de plus en plus va s'accroître dans ce monde. Et à cause de cela, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que le Seigneur aussi eh bien, nous rappelle par sa parole que le diable fera tout pour essayer d'insuffler la zizanie ou même les disputes, les conflits, là où la communion fraternelle s'effrite. Et nous ne voulons pas de cela parmi nous. Persévérer dans la communion fraternelle parce que peut-être ton frère ou ta sœur dans la foi passe des moments difficiles. Et quelquefois ça ne se voit pas. Quelquefois, on a besoin eh bien, du discernement du Saint-Esprit. Quelquefois, cela nous est volontairement caché. Mais il y a des personnes qui souffrent eh bien, parce qu'ils sont dans le découragement. Ils sont dans la souffrance, ils sont dans la solitude ou même dans les pièges de l'ennemi. C'est pour cela que nous avons vu ensemble quelques pistes, quelques recommandations ce matin. Je les rappelle, savoir s'accueillir les uns les autres, se supporter les uns les autres. Mais aussi s'exhorter et s'édifier. Et ce n'est pas parce qu'on est dans cette période de vacances où on aurait tendance à pouvoir se détendre, eh bien qu'on n'est pas capable de pouvoir être assez sensible au Saint-Esprit qui va nous dire « prends le téléphone » ou bien « va voir un tel, une telle » pour eh bien ensemble, non pas eh bien pour être pire, mais se réunir eh bien pour être meilleur et prier, pourquoi pas les uns les autres. Se consolider dans cette communion, alléluia, fraternelle. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses ce matin, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à pouvoir les vivre. Je prie Dieu pour qu'ici, il y ait eh bien, cette communion telle, cet amour fraternel tel, que les gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'eux, ils le voient, eh bien, ils puissent reconnaître qu'à cause de cela, Dieu est parmi vous. Et François l'a rappelé tout à l'heure, à l'introduction à la Sainte-Seine, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles encore ce matin. Merci pour la communion fraternelle. Seigneur, qui est même surnaturelle celle que tu as, Seigneur Père, mon Dieu, conçue, celle que tu as réalisée au sein même de ton peuple, ton Église. Et nous voudrions, Seigneur, maintenir l'unité et la paix entre nous, toujours en nous accueillant, toujours en nous supportant, pas avec amour, Seigneur, les uns les autres, mais également en nous exhortant, en nous encourageant, en nous édifiant les uns les autres. Aide-nous à vivre simplement ces choses. Toujours ce que tu nous demandes n'est pas compliqué. Et c'est quelquefois notre propre orgueil qui, Seigneur, est confronté à la simplicité de ce que tu nous demandes. Toi qui mets le vouloir et le faire, donne-nous à vivre ces choses simplement. Pardonne-nous quand nous avons manqué le but. Pardonne-nous quand cette communion a manqué au sein de nous, au sein de cette Église. Pardonne-nous quand cette communion a manqué au sein de nos foyers, au sein de nos familles. Seigneur, donne-nous de l'intelligence. Parce que, Seigneur, tu viendras rechercher une Église qui est sainte, belle, irrépréhensible, sans tache ni ride. Aide-nous à comprendre ces choses. Tu as parlé à Caïn, il n'a que faire de ce que tu lui avais dit. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi ce matin et que nous ne nous endurcissions pas. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.